C'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour.
Bonjour à tous. La femme n'est décidément pas un homme comme les autres. En Suisse, on propose des rabais aux femmes pour compenser les inégalités de salaire. Que s'est-il réellement passé avec la petite Maëlys ? Nordal Lelandais doit en venir au fait devant les assises de l'Isère. Mais s'il reconnaît avoir tué la petite fille, sa version n'a jamais convaincu. Dans ce journal, le ralliement, sport du moment en politique. Le Marseillais Stéphane Ravier quitte le Rassemblement National et met le cap plus à droite vers Éric Zemmour. Les négociations sur le nucléaire iranien qui se rapprochent d'un accord. Enfin, la doyenne de l'Europe fête ses 118 ans et Sœur André continue à s'occuper de ceux qu'elle appelle les vieux, c'est-à-dire les autres pensionnaires de sa maison de retraite à Toulon.
7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Aujourd'hui sur l'avenir énergétique de la France, tel qu'esquissé hier par Emmanuel Macron dans son discours de Belfort.
France Inter. L'offre est alléchante. La ville de Genève propose un rabais de 20% pour aller à la piscine, au cinéma ou assister à un spectacle, non pas aux étudiants ou encore aux retraités, mais aux femmes. Une ristourne destinée à compenser l'inégalité homme-femme sur les salaires. Mais est-ce de la générosité ou une autre forme de discrimination ? Le débat agite la Suisse. À Genève, Jérémy Lanche.
Le chiffre de 20% n'a pas été choisi par hasard. C'est à peu près l'écart salarial entre les hommes et les femmes en Suisse. Proposer un rabais aux femmes dans tous les lieux culturels et sportifs serait moins une manière de réduire véritablement cette inégalité que de la rendre visible partout, tout le temps, comme l'explique Oriana Bruckner. Elle est élue municipale à Genève.
Dans ce moment où on va au guichet et on paye l'entrée et puis on a droit à ce qui semble être à première vue un cadeau, en réalité, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit parce que le cadeau, c'est nous, les femmes, qui le faisons tous les mois avec notre fiche de paye.
La mesure est donc très symbolique, mais la ministre en charge des Finances du canton de Genève, Nathalie Fontanet, elle, n'y était pas favorable, pas pour des raisons budgétaires, mais parce qu'elle estime qu'on ne peut pas répondre à une discrimination par une autre discrimination.
On va aider des femmes parce qu'elles sont femmes, alors même qu'elles n'auraient pas besoin d'aide. Je pense à des femmes qui auraient des salaires importants, des revenus importants, et puis qui finalement viendraient grâce à cela assister à un spectacle à moindre coût, alors qu'un homme qui, lui, aurait un petit revenu devrait, lui, payer plein pot.
La motion n'a pas encore été appliquée par la ville de Genève. Elle pourrait d'ailleurs être retoquée, certains à droite estimant qu'elle est anticonstitutionnelle. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Troisième interrogatoire pour Cédric Jubilard aujourd'hui dans le bureau de la juge d'instruction à Toulouse. Soupçonné du meurtre de sa femme Delphine à Cagnac-les-Mines, il devra s'expliquer sur ses confessions faites à son ex-co-détenu. Confession dans lesquelles il avoue l'avoir tué et avoir enterré le corps. Sa femme a disparu depuis 14 mois. Nordal Lelandais, dira-t-il la vérité ou défendra-t-il sa vérité ? Cette dixième journée d'audience devant les assises de l'Isère s'annonce encore éprouvante pour la famille de la petite Maëlys. Il sera interrogé sur l'enlèvement, la séquestration et la mort de l'enfant de 8 ans. Il n'a jamais donné de détails sur les circonstances de sa mort et sa version peine à convaincre. À Grenoble, Mathilde Vinceneux.
Dans le box, Nordal Lelandais garde son sang-froid. Il s'agace par moments quand une question le dérange, mais il ne lâche rien face à sa famille, à ses amis, face au témoignage aussi des invités du mariage que son avocat tente de mettre à mal. Il continue de dire que Maëlys est montée volontairement dans sa voiture. Maître Laurent Boguet est l'avocat du père de la petite fille.
Nordal Lelandais aurait finalement récupéré un peu à son insu une jeune fillette de 8 ans qui aurait accepté de quitter ses parents, une scène de mariage simplement pour l'accompagner à aller voir deux chiens. Nous n'y croyons pas. Il se heurte à des incohérences majeures qui rendent son discours inaudible en réalité.
Si Nordal Lelandais a reconnu des tendances pédophiles et deux agressions sexuelles sur ses petites cousines peu de temps avant le mariage, il assure qu'il n'a pas abusé de Maëlys. La question sera au cœur de l'interrogatoire, mais difficile d'espérer des aveux. Maître Fabien Rajon, l'avocat de la mère de Maëlys.
Des aveux, non. Mais des contradictions, voire la stratégie de Nordal Lelandais toujours plus mise à mal, voire Nordal Lelandais toujours plus coincé, oui.
Nordal Lelandais va-t-il vaciller face à la cour ? Il n'a pas bougé en tout cas face à la grande sœur de Maëlys, qui lui a demandé, du haut de ses 17 ans, d'avoir la dignité et le courage de dire toute la vérité.
Mathilde Vinceneux, il dénonce le pass vaccinal ou encore la hausse du prix des carburants, mais ceux qui participent à ce qu'ils appellent le convoi de la liberté n'entreront pas dans Paris. 7200 policiers et gendarmes sont mobilisés dès aujourd'hui pour 3 jours en amont des contrôles seront mis en place au niveau des péages sur les principaux axes menant à la capitale. Bruxelles, censée être la destination finale, a interdit elle aussi le convoi et renforcera ses contrôles à la frontière avec la France.
Il est 7h35, Christelle, la politique entre défection et ralliement.
À la droite de la droite, la figure du Rassemblement national à Marseille, Stéphane Ravier, prépare son départ vers le camp Zemmour. Il vient de quitter les instances du parti. Et pour les militants, ce n'est pas une pagnolade, Élodie Forêt.
Un bout de trottoir devant la permanence, une baffle, un micro.
Voilà, ça y est, il arrive.
Stéphane Ravier, face à une soixantaine de militants, fait le show. Attaque contre Marine Le Pen, démission des instances et allusion explicite à son avenir politique.
La vie, comme dit le président Le Pen, la vie commence toujours demain. Et demain, on nous annonce un beau soleil. Un soleil nouveau est en train de se lever et nous saurons, nous aussi, éclairer et réchauffer Marseille et les Marseillais.
Un nouveau soleil va se lever, dit Stéphane Ravier. Au premier rang, ses supporters l'acclament et espèrent rapidement un ralliement officiel à Éric Zemmour.
Il faudrait qu'ils le fassent, ça serait bien, parce qu'ils ont fait du mal.
En fait, ce qui est important, c'est de ne pas se trahir soi-même, je pense. Et là, il fait un choix avec lequel il est fidèle à ses idées, ses convictions. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une trahison.
Quelques mètres derrière, Marie-Hélène, militante de 30 ans, a les larmes aux yeux.
Moi, il me cassait les jambes, quoi. C'est tout.
Dégoûtée, dit-elle, des trahisons.
Malheureusement, il va faire changer la vie à beaucoup de gens.
Et persuadée que Marine Le Pen ne s'en relèvera pas.
Elle ne passera pas. Et moi, je ne voterai plus jamais. Pour moi, c'est fini. C'est tout dépourri, c'est tout détordu. Et la France, elle est foutue.
Et tandis que Marie-Hélène s'éloigne, les esprits s'échauffent, un coup de boule, des insultes. Dans cette petite impasse marseillaise, l'illustration d'un camp nationaliste aujourd'hui déchiré.
Une nouvelle défection dans le camp Pécresse, celle de la maire de Calais, Natacha Bouchard. Elle annonce dans le Figaro qu'elle va soutenir Emmanuel Macron au nom de l'intérêt de sa ville. Valérie Pécresse, elle, est reçue dans la matinée par Nicolas Sarkozy et elle espère bien se faire enfin parrainer. Joe Biden appelle les Américains à quitter l'Ukraine maintenant en raison d'une possible invasion russe. Dans une interview accordée à la chaîne NBC, le président américain affirme que la situation pourrait vite s'emballer. Pour autant, il n'enverra pas de soldats en Ukraine, même pour évacuer ses ressortissants. Sinon, explique-t-il, ce serait une guerre mondiale. L'Iran célèbre aujourd'hui le 43e anniversaire de la Révolution. Les discussions sur le nucléaire iranien ont justement repris cette semaine à Vienne, en Autriche. Selon plusieurs sources, un accord serait en vue pour remettre sur les rails l'accord de 2015 que Donald Trump avait soigneusement torpillé. Mais il reste de nombreux obstacles à surmonter et le temps presse. Franck Madvon.
Dans ces discussions sur le nucléaire iranien, il y a le camp des optimistes. On est à 5 minutes de la ligne d'arrivée, assure par exemple le négociateur russe Ulyanov. Un document de 20 pages circule même entre diplomates. Mais dans ces 5 dernières minutes, il reste beaucoup d'obstacles à franchir. D'abord, l'Iran continue à défier l'Occident. Il vient de présenter un nouveau missile de moyenne portée et ne cède pas un pouce de terrain dans les négociations. Les États-Unis ont retiré leurs sanctions pour les projets nucléaires civils. Insuffisant, répond Téhéran, qui refuse toujours de discuter directement avec Washington. À Vienne, les Européens passent d'une table à l'autre. Et pendant ce temps, l'Iran avance à grands pas dans son programme nucléaire. À Washington aussi, il y a des blocages. Le Congrès ne validerait sans doute pas un nouvel accord. Il faut donc trouver un moyen de le contourner et, si possible, ne pas trop fâcher les alliés des États-Unis, comme Israël ou certains pays du Golfe. Reste la conviction qu'un accord est dans l'intérêt de tous. L'Occident veut que l'Iran s'éloigne de la bombe et Téhéran doit sauver son économie, étranglée par les sanctions.
Franck Madvon, une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste après la mort d'un Français de 50 ans au Bénin. Il a été tué mardi dans une embuscade qui a fait au moins 7 morts dans un parc animalier dont il assurait la protection, cible de plus en plus régulière d'attaques djihadistes. La mort de Luc Montagnier, Emmanuel Macron se contente de saluer sa contribution majeure à la lutte contre le sida. Il avait obtenu le prix Nobel dans les années 80 pour sa découverte du virus, mais depuis il était décrié pour ses positions anti-vax. Il est décédé mardi à l'âge de 89 ans, mais nous n'avons annoncé sa mort qu'hier en fin de journée. Une situation inédite car l'information en fait a été compliqué à confirmer. Expliquez-nous, Alexandra Hakoun.
L'annonce de la mort de Luc Montagnier fait irruption sur le compte Twitter de François avant-hier, mercredi, en fin de matinée, 11h42 très exactement. Moins de 2 heures plus tard, certains auditeurs de France Inter s'étonnent auprès de la médiatrice de Radio France que notre antenne n'ait pas donné l'information dans son édition de la mi-journée. Et pour cause, aucune source officielle n'est venue la corroborer. Seul André Mercoff, animateur star de Sud Radio, emboîte le pas à François en fin d'après-midi. annonçant pour le lendemain jeudi un grand hommage au professeur sur son antenne, mais toujours pas de source. Comme une personnalité d'habitude, à plus forte raison un ancien prix Nobel, l'entourage au minimum le fait savoir à l'agence France Presse qui fait office de référence. Là, rien. C'est finalement par le Check News de Libération qu'on aura une vraie confirmation hier, peu avant 17h, et d'une façon peu banale, explique le directeur du service vérification du quotidien, Luc Payon.
Il a fallu attendre le dépôt du certificat de décès à la mairie de Neuilly pour avoir confirmation effective de son décès. 48 heures après, l'information n'émane pas non plus de la famille, c'est-à-dire du côté de la famille, il n'y a aucune communication là-dessus.
Information qui sera alors donnée dans le journal de 18h de France Inter.
Les sports, ce sont mes derniers jeux, dit Tessa Worley, qui est sortie dégoûtée du Super G aux Jeux Olympiques en Chine. Elle a fini 19e. C'est la Suissesse Lara Gout-Bérami qui s'est parée d'or. Nantes rejoint Monaco en demi-finale de la Coupe de France de football. Les Canaries ont battu Bastia 2-0. Alors qu'Antoine Comboiré fêtait sa première année à Nantes, le match aura lieu début mars à la Beaujoire. Enfin, le gâteau ne sera pas assez grand pour porter toutes ces bougies d'anniversaire. Sœur André, la doyenne de l'Europe, fête ses 118 ans à l'EHPAD Sainte-Catherine-Labourée de Toulon. Lucille Randon a été gouvernante, institutrice chez la famille Peugeot. D'origine protestante, elle a changé de religion à 40 ans avant de rentrer dans les ordres. Et aujourd'hui encore, elle s'occupe des autres. Christelle Marquès l'a rencontrée.
Toujours aussi coquette, Sœur André s'inquiète de son sourire pour la photo. Elle se prête volontiers aux questions, même si elle l'avoue, elle se sent fatiguée.
J'ai fait cette saleté de maladie, alors ça ne va pas arranger.
Mais rien à voir avec son âge, raconte David Tavella aux côtés de Sœur André.
Le problème, c'est la météo, le problème, c'est la Covid qu'elle a eue, le temps qu'il fait, ou les choses comme ça. Mais 118 ans, non, elle ne voit pas pourquoi elle serait fatiguée à 118 ans, c'est quand même cocasse.
Car Sœur André n'a pas perdu sa détermination, selon Sœur Thérèse, une pensionnaire.
Une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est très attentive à ce qui se passe autour d'elle alors qu'elle ne voit pas. On sent que c'est une longue vie de dons qui se poursuit dans cette attention aux autres.
D'ailleurs, Sœur André le dit elle-même, non sans une pointe d'humour, « J'aspire toujours à aider les vieux ». Mais son cheval de bataille, ce sont aujourd'hui encore les enfants.
« Pour eux, je me suis sacrifié bien des fois. Et je l'ai fait... » Avec joie et plaisir.
Je les aime tous et je prie pour eux, conclut la doyenne des Européens.
Christelle Marquès de France Bleu Provence. Et elle aura droit, notre amie Sœur André, elle aura droit à son plaisir coupable aujourd'hui. Un petit verre de Porto.
Oh, c'est bon ça. Merci beaucoup Christelle. L'édito politique à suivre.